Actu SF, les podcasts.
Bon, bonjour à tous.
Pour un échange sur la notion de corps miniaturisé. Alors, on est sur la fin de ces utopiales. Ça, c'est une conférence qui est donc proposée par le pôle ludique. Qui habituellement parle beaucoup de jeux de rôle, essentiellement de jeux de rôle d'ailleurs, et puis on en profite que cette année ce soit le corps, le thème des utopiales, pour parler de sa représentation, et donc du coup de cet objet qui va être utilisé à plein de fins différentes, cette figurine dont on va parler. Pour ce faire, j'ai 5 invités à la table, que je vais d'ailleurs laisser se présenter quelques petites minutes. Alors certains sont connus, d'autres moins. On va commencer par celui qui est à ma gauche, et puis on va faire tourner. Je voulais gérer les micros, messieurs. On a 4 micros, on est 6. Il va falloir partager. Ok. Je te passe le mien directement.
Bonjour, bonjour. Moi, c'est Félix Gégaud, et je suis un sculpteur amateur, on va dire. Voilà, donc... Donc je suis un peu intimidé par mes voisins, mais je pense que ça va bien se passer.
Il n'y a pas de raison.
Du coup, moi, c'est Morand. Donc je suis sculpteur-peintre, ça fait à peu près, je dirais, 10 ans. Ça doit faire 5 ans que je dis 10 ans, donc ouais, ça doit faire 15 ans. Donc. Du coup, moi aussi, je suis intimidé par ces deux gars-là, parce que c'est un peu à cause d'eux aussi que je suis là. Parce que la sculpture sur figurine, c'est un virus qu'on se transmet. Donc j'espère qu'on va réussir à transmettre le virus aussi. Et du coup, en gros, moi, j'ai lancé un livre sur une campagne de financement sur l'art de la miniature. En fait, je me considère là-dessus plus comme un vulgarisateur, c'est-à-dire que je vais essayer d'inciter les gens à venir vers la figurine et à découvrir la figurine comme un média tout à fait classique, comme on peut avoir une fiche de personnage sur du JDR, comme on peut avoir... n'importe quel accessoire en fait, et je trouve que ça donne vie aux choses, et j'ai envie de transmettre ça, donc petit à petit, à travers des petites vidéos, des conventions comme ici, ben on partage tout ça ensemble. Voilà.
Bonjour, moi c'est donc Thomas David. Comme Jacques Alexandre à ma gauche, on est plutôt nous assez indissociables, parce qu'en fait on est dans le milieu depuis bien 20 ans. Et professionnel depuis décembre 2002, pardon, donc à en vivre. Donc oui, ça commence à faire un petit moment. On est passé par deux sociétés. Donc la première qui s'appelait Iliad Games, pour certains d'entre vous peut-être s'en rappelleront, 2002-2006. Après, on est passé chez Asmodée, qui est quand même plus connu par rapport à tous ces jeux. Et en fait, là, depuis 9 ans, on est à notre compte, freelance. Voilà.
Bon ben, moi, je m'appelle Jacques Alexandre, il a déjà tout dit, donc c'est bon.
Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, moi, j'espère que j'intimide personne, ou alors je m'intimide moi-même. Donc, je m'appelle David Javet, vous remarquerez probablement un petit accent suisse, puisque je viens de l'université de Lausanne. Je suis en train de terminer la rédaction d'une thèse consacrée en fait aux représentations des technologies de ce que j'appelle le prothétique, donc en opposition au robotique ou au nucléaire, donc tout ce qui vient, qui prolonge le corps, dans la science-fiction, les franchises de science-fiction contemporaine japonaise. En parallèle, j'ai cofondé le Unil Game Lab, qui est le groupe d'études sur le jeu vidéo de l'Université de Lausanne. Donc, j'ai aussi une activité en Game Studies. Je suis game designer et narrative designer dans un collectif de création de jeux qui s'appelle Chagata Games, qui est basé à Lausanne. Et puis, je m'occupe de la curation aussi de deux festivals, aussi en Suisse, un à Yverdon-les-Bains, pour ceux qui connaissent la maison d'ailleurs, qui est un musée de la science-fiction, qui s'appelle Numeric Games, et puis un autre qui s'appelle Ludicious, qui est le festival de jeux vidéo de Zurich. Et voilà.
Ok, ben on va pouvoir attaquer. Alors on parle de miniaturisation, oui. On parle de corps miniaturisé. On voit derrière nous, on a une figurine qui est un tout petit peu... chargé entre guillemets d'informations. Qu'est-ce que c'est avant tout une figurine ? pour vous, qu'est-ce que c'est? Je veux bien que vous fassiez un petit tour de réponse assez rapide. Qu'est-ce que c'est qu'une figurine pour vous?
Je vais commencer du coup. Pour moi, la figurine, c'est un support. Donc, c'est juste un support qui va nous représenter, ou représenter quelque chose qu'on aime, ou représenter quelque chose qu'on déteste et qu'on veut tuer, ou autre chose. Donc, globalement, pour moi, basiquement, c'est ça une figurine, et c'est ce qui fait qu'en gros, une figurine, on a, où on vit que, oui, effectivement, ça nous représente, ou, voilà. Donc, pour moi, à la base, basiquement, c'est ça, et à la base, étant gamin, je trouvais ça juste trop joli, et j'avais qu'une envie, c'était d'en créer et d'en peindre. Voilà.
Alors, justement, tu dis trop joli, c'est un support, toujours, c'est un vecteur pour un jeu ou quelque chose comme ça, mais il y a aussi, je pense, ce qui est important, une notion artistique, que ce soit en sculpture traditionnelle ou digitale, et c'est ça qui fait que ça nous distingue du simple pion dans le cadre de notre travail pour les jeux. On n'est pas dans le pion simplement en bois, donc on essaie de créer des personnages, c'est beaucoup plus travaillé, il y a quand même une note artistique, il faut le dire, et c'est ce qui, justement, fait la grosse différence avec les simples pions.
Pareil. Non, c'est, à la base, c'est un pion de jeu. Ça fait cette taille-là pour qu'on puisse en mettre plein sur une table et simuler des conflits, on va dire. Ça vient des trucs de simulation de bataille, comment dire, du 19e siècle, et puis ensuite de l'entre-deux-guerres. Voilà. C'était plus trop à la mode après la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est revenu ensuite dans les années 70. Et du coup, la taille, principalement, c'était par rapport au nombre de bonshommes qu'on pouvait mettre sur une table pour jouer, quoi, pour simuler des conflits à l'échelon tactique ou stratégique. Il y avait d'ailleurs, il y a d'autres échelles plus petites, quelques millimètres de haut, pour pouvoir mettre plus de bonshommes sur une table d'une dimension raisonnable, au-dessus de laquelle on peut se pencher, par exemple. Sinon, après, il faudrait des grands bâtons pour pousser des petits bateaux, comme dans les films.
Alors, il y a la miniature, j'ai précisé, il y a la miniature, là, je parlais du côté artistique. Je le rattachais, nous, à notre travail, ça correspond souvent à des pions de jeu, mais il y a aussi juste la figurine en tant que telle, qui est produite souvent, nous, dans notre cas, c'est en résine, que beaucoup d'amateurs de peinture prennent juste pour le plaisir de peindre et de mettre en valeur, de créer, de changer, de modifier, et après on a tout l'aspect aussi concours dans le milieu, concours de peinture et compagnie, qui est quand même très important. Donc la figurine a quand même un double rôle.
Alors, quand moi j'entends figurine, évidemment en pensant à mes travaux, j'entends beaucoup aussi figure, figurer, réifier quelque chose, donc transformer un élément en chose. J'associe ça beaucoup à des idées de production sérielle, de production en masse. On pourra peut-être y revenir après dans les représentations au cinéma. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire, notamment sur figurines et Star Wars, hein, mais pas que les figurines de Star Wars, mais la manière dont on a des représentations de figurines dans Star Wars. On a des dioramas. On pourra y revenir éventuellement après. Puis moi, ce qui va beaucoup m'intéresser dans cette idée de réification des corps, c'est, je vais vous donner un exemple. Je discutais avec une game designer qui s'apprête à sortir un jeu qui s'appelle Oneri Island, où l'idée c'est, donc vous avez une tablette numérique, et puis vous avez deux figurines que vont contrôler deux joueuses. Et puis c'est une technologie qui a été qui permet ça. C'est une technologie de conduite de votre je sais pas. Enfin, je peux pas expliquer plus précisément que ça, mais en gros, le contact il se fait. Vous devez saisir la figurine et puis la tablette repère en fait où la figurine se trouve. Donc vous avez un jeu hybride en fait. Vous avez à la fois des joueuses et joueurs qui vont déplacer les figurines sur la tablette et la tablette qui va replacer en fait la caméra avec un point de vue vu d'en haut. Ce qui était très intéressant, je fais un long détour, c'est dans la discussion que j'avais avec Marion Bareil, donc cette game designeuse, c'est tout ce qu'elle me disait sur la manière dont les gens vont saisir. Parce que tout à coup, on est face à une figurine qui doit être saisie. Donc, est-ce que les gens vont prendre la tête? Est-ce qu'ils vont plutôt vouloir? Pour moi, il y a quelque chose de très intéressant au niveau de la tactilité dans la figurine. Je me suis aussi beaucoup intéressé au masque. Vous savez qu'au théâtre, on est interdit de toucher. Faut surtout pas toucher le masque. En tout cas, avoir sur scène ces doigts qui viennent percuter le masque pour pas casser l'illusion. Et j'ai l'impression qu'on retrouve aussi un peu ça dans la figurine, dans la manière dont on les saisit, dont on les touche. On parlait aussi du long balai qui permet de les déplacer. Et puis Marion me disait énormément de choses très intéressantes sur comment les doigts se positionnent. Il y a une forme de puisqu'on réifie un corps, il y a une forme aussi de sacralisation du corps dans le rapport qu'on y a.
Alors, je voulais juste apporter une précision du coup technique, c'est que en gros là, dans le cas en fait de ces pièces là, en fait pour que ce soit conducteur, il faut bien le prendre par la base. Oui. Mais c'est aussi très intéressant parce que derrière, en termes de conception, j'ai bossé sur Dungeon Mini un petit peu au début, et en fait c'est très important aussi parce que ça incite les joueurs à ne pas le prendre par la figurine qui peut être fragile.
En fait, ils utilisent une peinture conductrice.
C'est ça,
qui permet après de toucher le reste de la figurine.
Et ça vient pas mal de là en fait, le fait de le tenir par la base.
Ouais, mais là, c'est souvent une question de design. En fait, suivant les univers développés dans les jeux, ça dépend. Par exemple, si une figurine est bardée de pointes, naturellement, les doigts vont se diriger vers un socle. Une figurine assez lisse, facile à prendre en main, type Games Workshop, pour ceux qui connaissent ici, les gens vont souvent les prendre par les figurines. Voilà.
Ouais. Pour répondre à la question, qu'est-ce que c'est qu'une figurine ? Je crois que... Bon, peut-être même si beaucoup de gens dans la salle sont très orientés figurines de jeu, je crois qu'en fait les frontières de la figurine ne sont pas nettes et on peut facilement dériver vers le santon, le nain de jardin, et je parle d'expérience, hein, ou le pion pour le jeu, etc. Et que vraiment, plus que dans l'objet, c'est l'usage qu'on en fait qui définit la figurine.
Il y a aussi un élément non négligeable là-dedans, et pour finir un petit peu sur l'aspect en quantité, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup quantité en fait. Moi, j'ai déjà aussi sculpté des figurines uniques pour des collectionneurs. C'est des choses qui se font. Il a fallu quand même que j'aille aux États-Unis pour vendre des pièces de ce type-là à des collectionneurs, parce que alors je pense qu'on a un rapport aux choses qui est différent peut-être en Europe et en France, mais je sais que là-bas, j'ai vendu plusieurs pièces à des collectionneurs qui les ont mis dans leur vitrine parce qu'ils les considéraient comme des œuvres d'art puisqu'elles sont uniques et qu'en définitive on y met aussi un petit peu notre passion, notre plaisir, et que c'est aussi un média qui s'apparente à de l'art pour moi quand on se rapproche de pièces uniques dans lesquelles on insuffle un peu notre idée, notre envie et notre passion, quoi.
C'est une sculpture.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que je dis ça en fait pour préciser, parce que on parle beaucoup la différence majeure entre l'art et le design techniquement, c'est que le design est utile. Il est utile, et pour moi le design s'apparente à ce qu'on fait quand on fait une figurine de jeu, parce qu'on la design pour le jeu aussi, pour que ce soit pratique à manipuler et tout ça. Ceci étant, pour moi il y a une part qui est non négligeable, c'est vraiment la sculpture unique, parce que moi personnellement c'est vrai que ça a été des expériences qui ont été super enrichissantes, juste parce que je me suis éclaté pendant 2 mois, j'ai fait une pièce qui était unique, donc je ne reverrai plus, mais en définitive les pièces qui sont derrière produites, que je sculpte et qui sont produites, forcément l'attachement il est peut-être un peu moindre que sur une pièce qui ne sera jamais produite et qui restera unique. Donc, voilà.
J'imagine que sur le sentiment de laisser une trace, on n'a pas tout à fait la même chose avec une pièce unique à destination d'une collection particulière qu'avec un produit qui sera produit en masse. Alors justement, ça me permet de répondre sur une question, c'est une économie aujourd'hui, hein, la figurine, sous ses différentes formes. On n'a pas forcément toutes explicitées ici. Mais qui c'est qui consomme justement la figurine aujourd'hui ? Quels sont les publics qui sont amenés à consommer cette figurine ?
Alors moi là-dessus, je me suis rendu compte, et c'est ce qui a amené la création du livre, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que ça touchait de plus en plus de monde grâce justement aux jeux de société. En fait, le jeu de société type Zombicide a énormément démocratisé la chose, et à partir de là, moi j'ai vu un énorme changement. Et à partir de là, je me suis mis à donner des conseils que j'aurais pas pensé donner aux gens, en fait. C'est-à-dire que je me suis mis à expliquer aux gens des choses très basiques sur la peinture, là où avant on me demandait tout de suite des conseils d'un niveau beaucoup plus élevé. Et ça m'a fait me rendre compte que, en gros, Zombicide, ce type de jeu qui était devenu beaucoup plus fréquent, commun et présent partout, avait remis en avant un média, la figurine, qui, encore 5 ans auparavant, de toute façon, depuis que j'ai commencé dans ce métier, on me dit tout le temps que c'est voué à disparaître. Depuis que j'ai commencé, on me dit que c'est une mauvaise idée. Et depuis que j'ai commencé, on me dit que c'est voué à disparaître. Et bizarrement, depuis que j'ai commencé, ça ne fait que se développer. Donc
joueur, pour répondre à la question, joueur et collectionneur. On a les deux aspects. Voilà.
Donc ça, plus
et en fait, qui dit collectionneur, en fait, c'est dérivé de toute la culture populaire, qui dit cinéma et compagnie aussi. Quoi. On habite, tout, les gens sont de plus en plus habitués à acheter des produits dérivés, donc que ce soit des films, donc des figurines qui sont issues de ces univers-là et tout ça. Et donc ça se retrouve aussi donc dans chez eux, dans leur vitrine, par le jeu et par cet aspect-là.
C'est vrai que la distinction pour le coup pièce unique et puis sérialisation, elle est très importante à faire. Je pense qu'il y a aussi quelque chose au niveau du contexte techno-industriel qui me semble assez clé, parce qu'on a tendance, puis ça vous pourrez, enfin j'aurais besoin peut-être de votre avis par rapport à ça. On a tendance à penser que dans un jeu par exemple comme Zombicide, ce qui coûte le plus cher c'est les figurines, alors qu'en réalité la logique techno-industrielle de production de jeux par exemple aussi comme Conan ou autre, par rapport à la production de plastique, aux moules et à la reproductivité, en réalité le carton coûte plus cher que les figurines.
Je suis pas sûr.
Alors là-dessus, du coup, je vais pouvoir vraiment éclairer, parce que par rapport à mes collègues qui ont une expérience bien plus importante que moi dans le sujet, moi, le truc, c'est que je m'occupe aussi de tout l'aspect production, c'est-à-dire que j'ai les devis, j'ai les chiffres en main, parce que je suis aussi gérant de la société Happy Games Factory, qui produit des jeux avec des figurines. Donc j'infirme un truc, c'est que non, la figurine reste un média extrêmement cher et bien, bien, bien plus cher que le carton, en fait.
Mais c'est parce que l'argent se situe au niveau du paiement du sculpteur.
Pas uniquement.
Plus que dans la production.
Non, en fait je vais rentrer dans le détail du coup pour
d'accord,
que ce soit
oui,
clair.
C'est bien.
Typiquement, sur une production, je vais essayer de synthétiser vraiment. Je sais pas moi. Sur une production où en gros une boîte va coûter pour, je dis n'importe quoi comme chiffre, mais c'est 2 euros de carton en termes de production pure de figurines, sans compter le coût des moules en amont, on va en être pour quasiment le triple, voire le quadruple.
Mais lors d'une deuxième édition, par exemple.
Lors d'une deuxième édition, alors théoriquement, alors, on va encore plus rentrer dans les détails, un moule de
production. Ah, je continue à être intrigué.
En moule de production, il faut comprendre qu'en gros, dans un moule de production en charge fixe, ça va être aux alentours de 5 à 10 000 euros. Je schématise, et on va pouvoir mettre dedans entre 4 et 5 empreintes de figurines. Si on ne tient dans mes calculs et dans ce que je dis, je ne tiens pas compte de cette charge supplémentaire de frais fixes et de coûts fixes. Donc non, la figurine, c'est un média extrêmement intéressant parce que c'est vraiment agréable, mais un jeu de cartes, un jeu avec uniquement du carton reviendra toujours quasiment 4 à 5 fois moins cher. Donc ça, ce sera...
D'accord, I stand correct.
En fait, c'est une question de quantité. C'est-à-dire, si dans un moule en métal pour éditer des figurines en PVC ou en ABS, on peut sortir des centaines ou des milliers de références. Si on investit dans une... Comment dire ? Si on paye un sculpteur, les droits, etc., et qu'ensuite on édite le truc à seulement 1000 exemplaires, ça va être très cher en figurines. Il y a d'autres entreprises qui éditent leurs produits à 100 000 exemplaires. À ce moment-là, l'économie d'échelle se fait dans les grandes quantités. Quoi.
Si on prend l'exemple de Lego, hein, tout simplement Lego avec ses mini-figurines ou ses briques, le moule est ce qui coûte le plus cher à la base. Ce qui leur permet de gagner de l'argent, c'est la production massive. Et finalement, la limite de pièces à produire, quoi, la limite de typologie de pièces et de couleurs à utiliser. Et à un moment, ils ont visiblement eu un problème économique avec la multiplication des couleurs et la multiplication des pièces. Donc on est quasiment sur les mêmes problématiques, en fait.
C'est des problématiques d'industrie.
C'est ça.
Ouais, je crois que quand on dit qu'est-ce qui coûte le plus cher entre le carton et le plastique, finalement, on parle de quoi ? On parle de la surface, on parle du volume, on parle du poids, on parle du nombre d'heures utilisées par rapport au nombre d'euros dépensés. Enfin, ça dépend de quelle échelle on cause, quoi. Enfin, puis de la qualité aussi. Est-ce qu'on parle d'une figurine faite à l'arrache par un sculpteur amateur comme moi ? Ou est-ce qu'on parle d'un truc vraiment haut de gamme, d'une figurine en 12 pièces, genre comme ça ?
Sur celle-là, il y en a 40.
Voilà.
première fois que
comme ça a été dit avant, faire un moule pour du plastique, ça coûte des dizaines et des dizaines de milliers d'euros.
J'ai menti, on a 25.
Après, sur un genre comme Zombicide, ça dépend. Si on a 4 kilos de carton et 8 figurines, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Où est-ce qu'on a...
Mais dans votre Zombicide, on n'a pas 8 figurines, on a 70,
ouais, 100, ouais, une centaine. Ouais.
Ben voilà, mais il y a 30 fois le même zombie.
Mais c'est ça, oui,
on a payé
oui,
la sculpture qu'une fois.
Dans une logique,
d'ailleurs, souvent, dans tous les produits ludiques, on dirait avec des figurines,
le diable est dans les détails.
C'est les figurines uniques qui généralement vont demander plus d'attention. Il faudra payer les sculpteurs plus cher, ça va être plus long à faire. Et en plus, on n'en sort qu'une seule, donc on peut la vendre qu'une fois par client. Alors que les zombies, par exemple, le client, il en a besoin de 50. Alors voilà. Là, l'économie n'est pas la même. Quoi.
Alors, je vais refaire le focus sur le qui consomme. Qui consomme donc ces figurines. Au final, vous avez pas mal parlé de coûts et d'économies, etc. C'est ce qui est très intéressant, on y serait venu.
C'est ma faute.
Mais non, c'était très très bien. Par contre, qui c'est qui justement va acheter ça quoi, aujourd'hui? Alors, il y a les joueurs bien sûr dans l'univers du jeu. Ceci étant, la figurine, c'est pas que de l'univers du jeu. Est-ce qu'on a une idée? Je sais pas si c'est une projection de qui est le consommateur aujourd'hui sur de la figurine, y compris par exemple sur du produit dérivé cinéma.
Non, pas vraiment. Enfin, j'ai pas de. On a malheureusement un creux immense là dans la recherche. On commence uniquement au niveau de la recherche à avoir des gens qui s'intéressent aux produits. Enfin, ce qu'on appelle, mais ça c'est un des plus grands mensonges pour le coup de la franchisation des produits dérivés. Alors qu'en réalité, il faudrait peut-être plutôt parler de produits dédiés ou. Enfin voilà, faudrait trouver une autre manière de se faire bouffer en fait par cette idée que en gros il y aurait une sorte de hiérarchisation du produit avec le gros produit légitime, jeu vidéo, cinéma, et puis après les petites choses qui viennent un petit peu sur le côté. Alors que bon, je reviens de nouveau sur les logiques industrielles, mais dans les logiques industrielles, ben en réalité le cœur industriel c'est la figurine. Et ça l'est pour Star Wars, ça l'est pour tout. Il y a vraiment un renversement qui est évident quoi.
Thomas me le disait à l'oreille, mais c'est tout le monde en fait, et c'est vrai que c'est super bien résumé, parce que moi sur les salons, et c'est aussi pour ça que j'ai eu cette idée encore de livre, parce que je me suis dit mais c'est dingue à quel point ça touche une population large, parce que en définitive moi j'ai commencé, je donnais même des cours du côté de Herblay, et du coup en fait les gamins venaient parce qu'ils étaient intrigués, ils venaient, ils se posaient, ils se mettaient à peindre, et derrière les parents me disaient mais comment vous avez fait pour le faire taire? Et du coup, j'expliquais ce que je faisais, et du coup, il disait, ah ben, je vais essayer aussi. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'on peut toucher, et en ce moment, il y a de plus en plus de couples aussi qui se mettent à ça, parce que du coup, on passe du temps ensemble, on va jouer, on va s'amuser. En gros, ça touche techniquement tout le monde. On est dans une société où on a la chance d'avoir, de pouvoir passer quand même pas mal de temps sur nos loisirs, sur nos plaisirs. Et aujourd'hui, du coup, la figurine, c'est un média qui est génial pour ça, parce que, en fait, quand on est dessus, on voit pas le temps passer, et quand on joue avec non plus, on passe des super moments, donc forcément, ça touche tout le monde.
Bah en fait, c'est très simple. Le jeu remplit parfaitement maintenant son rôle principal, qui est le vecteur social, tout simplement. Donc, qui dit jeu de société, fait que, même s'il y a, quelques années, je pense que c'était nous, notre type de jeu pour lequel on travaillait, c'était peut-être quand même franchement marqué un peu plus masculin. Maintenant, comme le jeu se démocratise tout court, à tous les niveaux, t'as tout à fait raison, hein, Mo, les couples commencent à jouer en fait. Alors, avant c'était souvent des groupes de joueurs, maintenant ce sont des familles, des fois des couples, des fois des familles entières. Moi-même, par exemple, maintenant, je joue avec ma fille aînée qui a l'âge de commencer à jouer avec moi avec des figurines, et ça se passe très bien, en fait. Donc, c'est vraiment démocratisé, et de plus en plus. Et c'est ce qui permet au milieu de se développer, en fait. On est passé d'un petit monde, je dirais, un peu pro, un peu amateur, à maintenant une mini-industrie.
Dans laquelle certains... Tu voulais répondre sur la question ?
Je voulais dire un truc juste, c'est que ce qu'on appelle peut-être du coup à tort les produits dérivés, c'est souvent des figurines que les gens achètent et collectionnent, et posent chez eux comme des bibelots, etc. Dans ce qui nous occupe, nous, l'industrie dans laquelle on travaille, nous trois en tout cas, c'est bien nous quatre, on se connaît pas trop, mais voilà, il y a tout un aspect hobby. Les gens achètent les figurines en pièces détachées et ils passent des heures à les monter et à les peindre. Soit ensuite, soit avant de jouer avec, dans le cas des pions de jeu, soit les figurines plus à collectionner comme des bibelots. Alors, ils les mettent dans des vitrines et ils les montrent chez eux, mais du coup, c'est vraiment il y a tout un aspect hobby, ouais, loisir créatif, on va dire, en plus du comment dire, de l'aspect collection et ludique.
Alors dans l'aspect collection, justement, je vais attaquer par ce sujet-là. Il y a une extension d'un univers par la figurine, avec une figurine qu'on amène dans une vitrine. Cette extension, ça veut dire on a un besoin de, ça exprime peut-être un besoin de posséder, de pouvoir continuer l'expérience intellectuelle qu'on a pu vivre dans un environnement particulier. Je pense notamment au cinéma. Est-ce que ça aujourd'hui c'est quelque chose qui a été étudié particulièrement, le fait de ce besoin-là?
Alors oui, cette fois. Parce qu'en fait, il faut quand même que je mette en avant, il y a probablement énormément d'autres chercheuses et chercheurs qui travaillent là-dessus, mais je vous invite à aller lire le travail de Alain Boyat, Boyat, qui est donc à l'Université de Lausanne, qui, on a de la chance d'avoir un professeur qui a aussi une collection de figurines Star Wars immense, qui est un fou de Star. Enfin, maintenant, il a décidé un petit peu d'arrêter, il en a fait don, mais qui a énormément travaillé aussi sur tout l'appareil paratextuel de la figurine dans Star Wars. Et là, c'est assez phénoménal quand on commence à se pencher sur ces textes, parce que évidemment, il y a la figurine, mais aussi le carton de la figurine. Comment on la présente, comment on structure aussi l'acquisition de la figurine, quel texte on va mettre derrière. Et tout ça, c'est des textes et des récits, hein. C'est des fragments de récits. Alors, je prends l'exemple de Star Wars, mais évidemment, on pourrait l'univers, l'ameublement de l'univers, hein. On aime bien cette idée de meubler l'univers en théorie de la fiction. Il se fait principalement par la figurine. Parce que la figurine, ce qui est là de génial, c'est que c'est un fragment. C'est que c'est un fragment d'un univers. Et que, en gros, c'est par la consommation de la figurine. Alors là, une fois de plus, je suis plus du tout dans des figurines uniques ou quoi que ce soit, je suis vraiment dans la grosse sérialisation. L'acquisition de ces fragments d'univers, elle se fait par la figurine. On pourrait aussi parler des stickers, hein, enfin de tout ce qui est en fait dans le tactile, dans la manipulation et autres. Et je pense que l'omniprésence de la figurine, Star Wars en est de nouveau un bon exemple, mais on pourrait aussi partir sur les franchises japonaises. Vous avez vraiment des plans qu'on pourrait appeler des plans diorama. Les scènes de cantina, les scènes où ils arrivent, ils sont volontairement surchargés en information, où le but est de, à mon avis, recréer un diorama, mais cette fois dans l'image cinématographique, où on a une trentaine de personnages, et que la résolution de qui sont ces personnages, elle va se faire uniquement par la figurine, le texte, qui sera présent potentiellement sur la boîte et autres. Et donc, par la surcharge d'informations, qu'à mon avis, on a aussi dans le diorama de la figurine, bah on va inviter le spectateur consommateur à aller après consommer les figurines après son visionnement du film.
Ce que je trouve assez intéressant vis-à-vis du rapport à la collection et à cet aspect-là, c'est que d'expérience, chez Happy Games Factory, en fait, sur la prochaine campagne Kickstarter qu'on prévoit, on a assimilé quelque chose dont on ne se rendait pas compte avant, c'est qu'on va présenter toutes les figurines en gris, en fait, en gris de façon complètement neutre. On s'est rendu compte que, et ça j'ai mis du temps à m'en rendre compte, parce que j'avais déjà, il y a eu l'expérience Zombicide avec laquelle j'ai eu la chance d'échanger avec Nicolas Raoult, qui est un des concepteurs, qui est issu aussi de l'école Rackham, et qui en fait m'a longuement dit, et j'ai mis du temps à percuter, hein, parfois c'est l'expérience aussi qui pèse, qui m'a dit explicitement, maintenant on évite de montrer les figurines peintes parce que ça fait peur aux gens, sur un premier abord. Donc le support figurine gris va donner envie aux gens, parce qu'ils vont se dire, ah c'est cool, ça fait un élément supplémentaire. Mais finalement, passer sur l'aspect j'ai des figurines, à l'aspect je les collectionne, et je vais peut-être les peindre, et je vais... En fait, pour amener quelqu'un d'une personne qui collectionne des figurines de jeu à quelqu'un qui va rentrer un petit peu dans le hobby, qui va rentrer dans le détail, en fait, on se rend pas compte, mais il y a un énorme gap quand même à franchir. C'est vraiment pas du tout les mêmes univers, et c'est la même chose entre un joueur et un collectionneur. Ouais. On est encore sur des typologies de personnes différentes.
Mais la figurine grise, c'est un peu la promesse de l'appropriation par l'utilisateur, enfin par le peintre, en gros. C'est
Indirectement, en fait, alors oui et non, parce que du coup, là, c'est pour ne pas faire peur qu'on la montre en gris pour dire, vous n'êtes pas obligé de la peindre, en fait. Et du coup, par contre, après, nous, enfin, là où Happy Games, on a envie aussi de s'amuser, c'est justement de montrer aux gens, en les accompagnant gentiment, que, ben, en plus, ils peuvent y ajouter des couleurs. Sans pour autant que ça fasse une pièce nécessairement de collection, un truc complètement dingue, mais juste pour le plaisir d'y ajouter des couleurs.
De toute façon, c'est simple, hein, quand la, comme une figurine sert d'accroche dans tous les cas, si elle est présentée grise, la personne aura peut-être une façon plus facile de s'approprier la figurine, le produit. Puis après, les plus courageux les peindront. Voilà, mais la présenter de manière de faire, la présenter non peinte grise, grise, c'est une histoire de lisibilité tout simplement. C'est la manière la plus facile de lire une figurine sur des tons neutres, donc brun, gris. Parce qu'une figurine blanche renvoie trop la lumière, une figurine noire ne la renverra pas, donc on verra rien, pas les détails. Donc le gris, c'est neutre. Voilà, c'est tout simple en fait, c'est juste un aspect pratique.
Je constate qu'on a ouvert une boîte de Pandore avec cette table ronde, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas forcément beaucoup de temps. J'aimerais qu'on fasse au moins un détour par l'aspect conception et travail de réalisation de la dite figurine. Peut-être commencer par toi qui a une posture un peu, tu rentres dans le sujet. Est-ce que tu peux nous décrire, Félix, comment tu procèdes pour produire une figurine et qui d'ailleurs te la commande? Est-ce que c'est toi qui l'as dans l'esprit ou si ça vient d'un tiers ou etc.
En général, je dois avouer que je suis assez sensible au hype. Donc quand je vois des gens qui parlent d'un truc et que et qu'il y a quelque chose dans l'air, et ben ça a tendance un peu à m'influencer pas mal. Après pour les vraiment le choix plus précis de design, etc. Ben je pioche un peu partout, dans les mangas, dans les films, dans la bande dessinée, chez les autres sculpteurs, etc. Et voilà, je suis pas très bon dessinateur, donc en général je gribouille un petit peu histoire d'avoir une idée de ce que je veux faire. Mais sinon je le fais au feeling parce que de toute façon, comme je l'ai dit, je suis amateur, j'ai pas suffisamment la technique pour faire exactement ce que je veux faire, donc je bidouille et quand ça a l'air bien, bah j'arrête, et sinon bah je bidouille jusqu'à ce que ça a l'air bien à peu près, donc voilà, c'est semi-intentionnel on va dire.
Du coup dans mon cas, mais après ça va dépendre, ça peut être exactement la même démarche. Quand je veux me faire plaisir, je veux passer le temps et tout ça, je vais partir en freestyle et puis je vais essayer de faire un truc qui me plaît, parce que c'est souvent, voilà, je vais avoir une idée en tête. Et... ensuite, quand c'est pour le boulot, très souvent sur Happy Games Factory, bah, c'est une méthode de prod classique. Pour avoir, enfin, c'est ce qu'on faisait chez Rackham, c'est ce que beaucoup font. C'est qu'on part d'un... alors nous, le jeu est primordial, donc ça part toujours d'une idée graphique issue du jeu, de ce que l'on va sortir. Ensuite, on le décline en concept. Ce concept va être décliné ensuite en sculpture, donc on va passer par des sculpteurs pro, donc je peux m'en charger ou je peux faire appel à des freelance. Et ensuite, la pièce va être découpée. Alors, on sait déjà dans quelle matière elle sera produite au moment où on la sculpte, parce que selon la matière dans laquelle elle va être produite, la sculpture va devoir tenir compte de contraintes de production différentes. Quand elle est unique, alors là on est bien, parce que du coup on peut se lâcher. Quand on passe sur du métal, bah, c'est assez contraignant. Quand on passe sur de la résine, c'est un peu contraignant, mais ça va, on a encore un peu de marge de manœuvre. Le métal un peu plus contraignant et le plastique très contraignant. Enfin, plus contraignant que les deux précédents. Donc ensuite, en fonction du média dans lequel il va être, dans la matière dans laquelle il va être produit, on va faire des découpes. Donc là, parfait, Jacques nous montre les découpes de sa belle pièce. Et ensuite, la pièce va être ensuite produite dans le matériau. Et puis après, à partir de là, le travail de sculpture est fini, quoi.
Alors avant que tes collègues répondent, juste une question. Le support métallique, résine, plastique, est-ce que ça influence quand même la part de conceptualisation? Est-ce qu'on pense la production du concept de la figurine en ayant en tête que ça va être dans tel matériau au final?
Ben oui, toujours, en fait. Après, chaque sculpteur a ses méthodes de travail qui va retranscrire en fonction de ce qu'on lui demande, mais il y a toujours une notion de production à prendre en compte derrière, tout le temps. Alors moi, dans mon cas, là, juste pour répondre à la question, moi, donc freelance, bon, pas complètement freelance, parce qu'en fait, je travaille pour un seul client depuis plusieurs années maintenant. Comment ? Oui, je suis quand même freelance, ouais, certes, mais bon, bref, on s'en fiche. Je travaille toujours sur concept. On me fournit tout le temps un concept, donc toujours une illustration, et je dois traduire en trois dimensions l'illustration. Ma part créative s'applique souvent, c'est tout bête, mais au dos des figurines, parce qu'on reçoit toujours un concept de face, et on doit toujours adapter le dos, parce que c'est très rare que les dessinateurs prennent le temps de faire ça. Donc après, nos solutions sont toujours techniques par rapport à ce qu'on nous demande, en fait. Et comme disait Momo, toujours en fonction du support après de production. On va toujours c'est toujours mieux de savoir comment va être produite la figurine ensuite. On va toujours adapter les volumes, les détails en fonction. Les contraintes sont différentes. Et donc là, moi, dans mon cas précisément, donc je travaillais essentiellement à la main depuis le début. Je suis passé au digital là, cette année avec formation. Et concevoir une figurine traditionnelle ou en digital, donc là, moi, je me sers d'un outil qui s'appelle ZBrush, ce n'est même pas la même chose ensuite. Par contre, l'avantage de la sculpture digitale, c'est qu'on a un outil beaucoup plus flexible qui permet après, donc ça va parler à tout le monde, hein, on imprime tout simplement les figurines en 3D, et donc ça permet de changer les projets n'importe quand, alors qu'on est beaucoup plus contraint en sculpture traditionnelle. On part d'une armature, vous avez vu ça au fur et à mesure, on part d'une armature métal, et en fait, on doit toujours valider tous les processus au client au fur et à mesure. Donc on commence par valider une armature, après on commence, ensuite on valide les premiers volumes, l'attitude générale, et plus ça va aller en sculpture traditionnelle, plus on va valider les détails. Alors qu'en sculpture traditionnelle, en sculpture pardon, numérique, on va foncer, on a des supports qui sont déjà prêts, et après, à la fin du projet, par exemple, si le client veut modifier les proportions du corps de la figurine, c'est faisable. Alors qu'en figurine traditionnelle, c'est faisable, mais c'est beaucoup plus contraignant, ça prendra plus de temps. Voilà.
Jacques-Alexandre, sur le sujet.
Des images.
Mais tu fais un très bon travail de support. Le support, c'est la question, c'était la question de comment vous produisez, quoi. Par quelles étapes vous passez, etc. Ah bah, tu as fait un très bon travail, Yannex.
Je viens vous montrer les images. On part d'une armature. Et suivant la complexité du modèle futur, il va y avoir plusieurs étapes. Justement, celui que vous voyez là était assez compliqué à faire. Je vais essayer de vous montrer les étapes au fur et à mesure.
Alors là, il y a un truc intéressant, c'est le rapport taille. Ouais. En fait, on voit les brosses à dents derrière.
C'est généralement tout petit. Quand c'est sculpté en traditionnel aussi, si on veut zoomer, il faut se rapprocher, quoi. Les trois quarts du temps, dans certaines industries liées au plastique, on pouvait sculpter en trois fois plus grand, par exemple. Ensuite, le procédé industriel réduisait la taille finale à un tiers, et du coup, ça donnait la taille du produit. Là. Très souvent, dans toutes les sculptures traditionnelles qu'on a pu faire, nous trois, même nous quatre, je pense, c'était sculpté en taille 1, on va dire. Donc là, on peut voir la taille, par exemple, attends, je ne sais pas si celle-là, là, ça fait 4 cm de haut, à peu près. Voilà, donc ça, déjà c'est petit, et en plus, en fonction de la forme de l'objet, il y a plein d'étapes. De sculptures qui dépendent vraiment de la chose elle-même, quoi. Par exemple, sur celle-ci, là, l'espèce de boule, pour pas qu'elle se déforme au moulage, il a fallu lui donner une structure intérieure avant même de commencer la sculpture. Ensuite, on a pu la remettre sur le personnage pour faire les tests, et voilà. Puis sculpter les parties séparément et les assembler à la fin. On les rassemblait pendant des étapes intermédiaires. Et voilà, donc il y a plein d'éléments, plein de façons différentes. C'est vrai qu'en digital, par exemple, c'est beaucoup plus souple. Là, sur des pièces comme ça, là, qui sont très longues à faire, il faut vraiment penser à tout avant.
Merci pour la présentation. C'est hyper impressionnant au passage, surtout quand on voit le rapport à la taille.
Okay. Je me permets une dernière précision par rapport à tout ce travail. Là, par exemple, ce que Jacques a fait voir, c'est un travail colossal en sculpture traditionnelle. Et pour la blague. Ensuite, nous, avec notre client, là, pour, on a, ça, c'est une figurine qui est faite pour le même client, en fait. On peut aussi, d'où la flexibilité du travail digital, cette figurine-là, par exemple, a été faite donc en manière traditionnelle, a été scannée. Avec et on l'a retravaillée sur fichier numérique.
Elle a été moulée en résine, en cette partie.
Voilà.
Après, on a scanné les parties et ensuite, c'est eux qui les ont retravaillées.
Et donc, retravaillée de manière digitale, après, elle permet n'importe quel type de moulage. Elle peut être remoulée en résine si on veut, modifier des choses. Et puis après aussi, elle peut être moulée pour le plastique dans le cadre d'un jeu, exactement, par exemple.
Et du coup, c'est un fichier, quelque part, qui est potentiellement retravaillable, sur lesquels d'autres intervenants peuvent intervenir, si on accepte, bien sûr.
Cette figurine-là, c'est un bon exemple, parce que Jacques l'a fait, tu l'as fait sur plusieurs mois l'année dernière. Mmh. Moi, j'ai un collègue qui l'a tout nettoyé après scan. Et à la fin de l'été, j'ai retravaillé le fichier, en fait. J'ai précisé quelques petites parties. Et puis, j'ai permis à certaines jonctions de mieux se faire. Mais après, là, c'est juste des questions très pratiques et techniques. Donc, je vais pas plus développer. Mais il y a toujours moyen de travailler les fichiers.
Alors, je vais juste vous poser une toute petite dernière question avant de laisser la parole au public. Aujourd'hui, on est sur des fichiers, on est sur des imprimantes 3D. Est-ce que ça transforme potentiellement votre vision de l'économie de la figurine dans le futur ?
J'aimerais, oui, justement, c'est intéressant que tu en parles, parce que quand je buvais tes paroles, hein, Thomas, et coup, c'est hyper agréable à entendre, mais la réalité, quand même, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que, typiquement, par exemple, contrairement à ce qu'on pense, imprimer des fichiers en 3D, derrière, ça demande un technicien, ça demande une personne qui maîtrise extrêmement bien une imprimante 3D. L'imprimante 3D, elle va tourner la plupart du temps, pour une pièce assez simple, elle va tourner toute une nuit. C'est, en fait, ça demande des réglages. Ce que je veux dire par là, c'est que l'impression 3D, ça donne cette impression un peu de magie, mais c'est une technicité qui est dingue. Alors, ce qui est super agréable quand on parle, c'est que ça paraît très simple, et ça, c'est l'intérêt aussi.
Moi, je suis là pour démocratiser.
c'est dans le cadre de l'industrie.
Non, mais il y a toujours un aspect technique. Dans un moulage résine, toute la technicité va venir du sculpteur. C'est à lui de mettre la technicité dans le produit afin qu'il soit facilement moulable à la fin. Après, avec des imprimantes, c'est une autre façon de procéder. Tout à
je rebondis là-dessus parce qu'on trouve de plus en plus d'imprimantes 3D aussi chez les gens. Ça se démocratise au point où, en fait, il y a beaucoup de gens qui se lâchent en prenant des imprimantes 3D, et c'est une bonne chose. Mais ça demande une certaine technique. Nous, on en parle en tant que pro, parce que moi, je sais que le fichier 3D, je l'envoie à l'impression et je le reçois cleané et tout ça. Mais c'est vraiment, c'est quand même assez complexe. On n'en est pas encore. Là, le travail que fait Thomas David et Jacques, ce qu'ils font, c'est vraiment génial. Nous, à notre niveau, typiquement, on peut vraiment pas se permettre ça, parce que ça a un impact, ça engendre des coûts qu'une petite structure ne pourrait pas forcément tolérer. C'était vraiment juste pour parler de la technicité, du fait que c'est vraiment assez complexe au final.
Alors moi, j'allais plutôt penser à un autre sujet que si celui de la diffusion des fichiers. Finalement du piratage de ces fichiers potentiels, etc. Et quelque part, le travail du sculpteur ou de la personne qui produit le fichier, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que vous avez bien sécurisé ces choses-là ou ça commence à poser problème?
Je pense que c'est un faux problème, en fait. De tout temps et tout le temps, il y aura toujours du piratage. Ça n'arrêtera jamais, en fait. Et il faut partir toujours du principe que la bienveillance, le bon sens paysan fait que les gens iront quand même toujours un peu plus acheter chez la personne qui est le producteur d'origine. Moi, je sais que la dernière fois, il y a une personne qui m'a envoyé un truc en disant « Oh, regarde Eden, qui est le jeu un des jeux phares pour Happy Games. Regarde, il y a des dans la gamme Eden, il y a des figurines qui ont été piratées par des je sais plus c'était où. Je fais bon, c'est cool. S'ils nous connaissent là-bas, c'est plutôt bon signe. Bah, à un moment donné, de toute façon, ça sert à rien de vouloir à tout prix contrôler.
De toute façon, il y a de toute façon déjà beaucoup de piratage.
Ça n'a pas besoin de passer par le fichier 3D, il leur suffit de commander un produit et ils le moulent et ils le revendent à l'arrache sur des sites chinois ou ukrainiens, et ça pose aucun problème, en fait. C'est déjà fait, il n'y a pas vraiment de moyen de lutter contre ça, à part la bienveillance du public qui fait l'effort d'acheter le produit chez les gens qui donnent l'argent aux sculpteurs, on va dire.
Ouais, on en parle pas mal en ce moment sur les réseaux de figurines. C'est que ouais, on trouve des recasters, donc des remouleurs chinois qui vendent pour un tiers de leur prix des figurines et en fait ça existe pas bien avant l'impression 3D et eux leur méthode de reproduction sont purement mécaniques quoi, c'est des moules en résine etc, enfin des moules en silicone etc. Ne faites pas ça à la maison. Donc là ouais, l'impression 3D n'a eu aucun impact sur le piratage.
Juste un dernier détail pour finir. Après, l'éditeur a aussi un impact non négligeable. C'est-à-dire que quand on décide du prix d'un produit, on tient compte des coûts, mais on tient compte aussi de la capacité d'achat des joueurs. Si jamais le produit a un prix qui est relativement abordable, en théorie, pour quelques euros, la personne ne va pas aller acheter. Voilà, je pense... On a tous vécu cette période, je crois, parce qu'il n'y a pas de personne très jeune, mais où on achetait des DVD. Ça a existé. Le prix de ces DVD, je veux dire, encore aujourd'hui, si jamais le DVD avait été à 5 euros au lieu de 20, peut-être qu'on aurait acheté plus de DVD, en fin de compte. Donc, à un moment donné, il y a ce ratio aussi où on est aussi acteur. On est aussi acteur de la maîtrise de, voilà, sur le produit à la fin.
Je me permets d'arrêter là mes questions et peut-être en profiter pour interroger le public. Est-ce que vous avez des petites questions, jeunes gens et moins jeunes gens?
Alors déjà, je vais profiter exceptionnellement d'avoir le micro pour apporter une petite précision sur les imprimantes 3D personnelles, parce que j'ai eu l'expérience d'essayer de faire de la figurine avec. Enfin, pas moi, mais mon colocataire, mais voilà. Et on trouve très très forte, d'énormes différences de conception des fichiers, avec des fichiers qui s'impriment à la perfection et c'est superbe tout de suite, et d'autres où au bout de deux bobines on abandonne quoi. Voilà.
Ah bah oui, après ça dépend de la qualité du matériel hein, tout simplement.
C'est pour ça aussi que j'avais fait l'intervention pour juste dire aux gens, voilà, l'imprimante 3D, c'est pas quelque chose de magique, et c'est bien d'en avoir une, je pense, mais par contre, faut se rendre compte que ça va nous prendre du temps, c'est une machine, quoi.
Non, mais moi, je parlais des imprimantes 3D, parce qu'après, c'était un des processus pour imprimer un fichier digital. Moi, je voulais juste insister sur la technique du travail digital qui, en comparaison avec le travail traditionnel, je trouve, maintenant, permet un peu plus de flexibilité, tout simplement.
Oui, vous avez évoqué les différents médias qui venaient à la figurine. Moi, j'ai un peu de tout qui vient d'un peu tous les horizons, de la bande dessinée, du manga animé. Est-ce que vous, qui sculptez, Vous touchez à un peu tous ces médias ou un peu plus de médias que le hobby, que éventuellement le jeu?
Moi, j'ai fait. En fait, c'est vraiment c'est une dynamique de clientèle, on va dire. Même si j'ai eu des contacts avec DC Comics, par exemple, ils ont trouvé très bien mon travail, mais ils cherchaient pas de sculpteur. Voilà. Par contre, via d'autres entreprises, au début, quand j'étais freelance, j'ai bossé pour une boîte espagnole qui, eux, vendaient du para-BD, des trucs genre édition Atlas. Donc via ça, je me suis retrouvé à faire des figurines Star Wars à collectionner ou des Astérix ou des machins comme ça. Mais c'était finalement, c'est parce que l'entreprise qui cherchait, qui avait besoin de mes talents, vendait ces trucs-là à d'autres. Voilà. Mais sinon, en fait, chacun des domaines... Dans le para-BD, ils ont leur sculpteur. Dans les figurines, dans les produits dérivés de DC Comics et tout ça, ils ont aussi leur sculpteur. C'est rare, en fait, qu'il y en ait un qui touche vraiment à tout. Surtout qu'une fois qu'on a trouvé un bon client, généralement, enfin, ou plusieurs, mais il y a largement le boulot, donc on n'a pas besoin de chercher à se diversifier à ce point-là non plus.
Mais après, d'un point de vue personnel, pour être vraiment bien au courant de tout ce qui se fait en général, et il faut être curieux. Et donc, oui, on a tendance à s'intéresser à tous les supports. Cinéma, bande dessinée, littérature. De toute façon, ça nous nourrit, nous, pour travailler.
Alors, je vois que Félix est un peu occupé, mais Félix m'a sorti de son sac tout à l'heure une réappropriation d'un personnage de dessin animé qui l'a transformé à l'usage de Warhammer 40 000. Si vous voulez voir ça, tu pourras vous montrer au pôle ludique en bas. Et là, effectivement, c'est, là, on est sur un, une réappropriation d'un support et par quelqu'un qui est un peu amateur sur le sujet, mais...
Du coup, effectivement, de façon personnelle, moi, je sais que je suis hyper gourmand. Je me renseigne sur tout. Je bouffe beaucoup de BD, de mangas. Je regarde beaucoup de séries sur Netflix. Je joue à Clash Royale. Enfin, bref. Et au final, de temps en temps, je me fais plaisir. Je sculpte des trucs de Clash Royale. Voilà, sur mes moments de détente, parce que ça me fait triper. Je voilà. Donc, moi, j'essaye de. Enfin, voilà. Je suis consommateur de tous ces univers-là, parce que ça nous fait nous évader, quoi.
Moi, j'ai une question. Ah,
bonjour. Moi, j'ai une question, en fait. C'est est-ce que, et auquel cas, comment le financement participatif a changé votre façon de travailler ?
Ah, c'est une super question. Bonne question. Hein. Ça a tout changé.
Moi, je rebondis vite fait parce que j'ai découvert. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai découvert la figurine grâce à ces deux gars. Et ils bossaient au début, ils l'ont dit, chez Iliad Games, qui a fait les chroniques de la Lune.
Ouais, tout à fait.
Qui a, entre autres choses, en fait, moi, je les ai découverts à travers des sculptures qui s'appelaient des Barbares Vora, qui étaient issues d'une
Jacques
BD.
Qui faisait.
Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que du coup, j'ai découvert la BD. Grâce à ces sculptures, alors que c'était, comme on dit, un produit.
Pour être précis, en fait, notre première entreprise, Iliad Games, on faisait les figurines du jeu de la société et on faisait les figurines d'une bande dessinée que certains connaîtront, qui s'appelle toujours les Chroniques de la Lune Noire. Donc on a, voilà, ça parle à certains. Donc les Vorax, c'était quand même une gamme de la société, mais. En fait, on travaillait avec Olivier Ledroit, qui était le dessinateur des 4 premiers volumes de cette bande dessinée. 4 ou 5, je ne sais plus. Bref, les 8 premiers volumes.
Il dessinait pour
la société dans laquelle on était. Donc, les Vorax, ce sont une de ses créations. C'était des sujets qu'il n'avait pas trop développés dans la bande dessinée, mais qui aurait pu s'y rattacher. Il les a développés pour la société pour laquelle on travaillait, puis Jacques les a sculptés.
Ouais, merci pour les précisions du coup.
Du coup, pour revenir au financement participatif, dans le milieu dans lequel nous, en tout cas personnellement, on exerce, ça a tout changé. Parce qu'auparavant, il fallait que quelqu'un qui avait un projet d'entreprise de figurines trouve des financements, ce qui n'était pas forcément évident vu la petitesse du milieu, le marché de niche et compagnie. On a vu beaucoup de gens d'ailleurs se lancer, mettre toutes leurs économies et celles de leur famille et puis se casser la figure après avoir dépensé tout leur argent en nous achetant des sculptures. Ce que le financement participatif a permis, c'est d'avoir l'argent avant et de prévendre en quelque sorte le produit aux fans ou de voir s'il marche ou pas et si les gens sont intéressés. Et ça a du coup permis non seulement à nous, mais à toute une galaxie de professionnels de vivre décemment de leur travail. Ce qui est vraiment la meilleure nouvelle des 10 dernières années en ce qui nous concerne.
Alors, Morane, je vais pas t'autoriser. Je suis désolé, parce qu'en fait, le temps a vraiment tourné et on a déjà débordé. Par respect pour nos collègues, on va respecter ça. Alors, j'ai deux choses à dire. D'une part, on peut continuer l'échange. On a ouvert une boîte de Pandore sur ce sujet-là. J'espère que les années prochaines, on pourra continuer sur cette dynamique. Deux choses. Première chose, le sujet a déjà été abordé aux Utopiales, le sujet du crowdfunding. D'ailleurs, Morand était invité, je crois, en 2016, il me semble me souvenir. Donc, si tu vas sur ActuSF, tu pourras peut-être retrouver l'info et l'ensemble des échanges. Et puis, sinon, n'hésitez pas à descendre. Alors, pour au moins 5 d'entre nous, on sera en bas au pôle ludique. David, je t'invite d'ailleurs au passage, si tu souhaites y passer. On espère poursuivre les échanges dans le futur. Je laisse la place à mes collègues. Et merci à mes invités.